France Culture.
Mais avant, un point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Mathilde Romagnon. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Des pourparlers indirects sont en cours en Suisse, à Genève, entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran veut se focaliser uniquement sur la question du nucléaire, mais Washington souhaite aborder le dossier des missiles balistiques. Le chef de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, participe à ces discussions. C'est la nouveauté des élections municipales. Le mode de scrutin change dans les trois plus grandes villes de France, Paris, Lyon et Marseille. Au-delà des questions pratiques, quels sont les enjeux politiques? Nous poserons la question à notre invité, le chercheur Bernard Dollet. Le constructeur automobile Stellantis annonce ce matin une lourde perte de 22 milliards 300 millions d'euros l'an dernier. La faute à la baisse des ventes des voitures électriques. Les suites en France de l'affaire Epstein. L'association Innocence en danger a recueilli de nouveaux témoignages de possibles victimes françaises du financier et pédocriminel américain. Et le renforcement en Europe aujourd'hui des contrôles autour d'une huile importée de Chine, incriminée dans la crise sanitaire des laits infantiles. De nouvelles discussions démarrent aujourd'hui en Suisse, à Genève, entre l'Iran et les États-Unis. Ces négociations ne porteront que sur le nucléaire, assure la diplomatie iranienne. Téhéran revendique le droit à l'usage pacifique de cette énergie. Mais Washington a une inquiétude majeure, c'est l'armement conventionnel des Iraniens, notamment de leurs missiles balistiques. Éric Biegala.
Oui, ces missiles balistiques sont d'ailleurs à terme une menace qui participe de la menace nucléaire iranienne. Parce qu'une fois qu'on a construit une bombe nucléaire, il faut pouvoir la lancer. Et les missiles balistiques sont l'engin le mieux indiqué pour ce faire. Un missile balistique est une fusée qui sort de l'atmosphère, opère une course ultra rapide dans l'espace, puis retombe sur une cible prédéterminée au sol. Les Iraniens disposent de ces armes, pour le moment armées de charges conventionnelles, c'est-à-dire non nucléaires, et ils s'en sont servis l'an dernier avec un certain succès pour bombarder notamment des bases aériennes israéliennes. Ces armes, dont certaines ont une portée de 2000 km, menacent évidemment tout le monde dans la région, relevait hier soir le secrétaire d'État américain Marco Rubio.
L'Iran possède un très important nombre de missiles balistiques, en particulier des missiles de courte portée qui menacent nos bases et nos partenaires dans la région. Toutes nos bases aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à Bahreïn. Et on doit bien comprendre qu'au-delà de leur programme nucléaire, ils disposent de ces armes conventionnelles. Et il faut régler ça. Les négociations de demain se concentreront sur le programme nucléaire. Et nous espérons que des progrès seront faits. Mais il est important de se souvenir que l'Iran refuse de parler de missiles balistiques à qui que ce soit. Et c'est un vrai problème.
Un problème d'autant plus immédiat pour les Américains que ces missiles balistiques seront la seule arme que l'Iran pourra utiliser en rétorsion contre une attaque américaine si celle-ci devait être déclenchée.
Éric Biegala, spécialiste défense. Ces discussions à Genève sont d'autant plus importantes qu'une contestation populaire est en cours en Iran, durement réprimée par le régime des Mollahs. Ces derniers jours, le président américain Donald Trump a accentué sa pression en déployant ce qu'il appelle une armada dans la région. Les États-Unis peuvent-ils entrer en guerre avec les États-Unis? Hossein, chauffeur de taxi iranien de 50 ans et père de deux enfants, n'y croit pas.
À mon avis, il n'y aura pas de guerre. Ils veulent simplement finaliser l'accord avec les experts. L'objectif de Trump, avec l'envoi de toutes ses forces, c'est de faire pression sur l'Iran. Les Américains demandent que l'Iran abandonne son programme de missiles ou limite la portée des missiles à 300 km. Ça veut dire qu'on lève les bras pour se rendre et qu'ils nous attaquent après? C'est quelque chose d'impossible. On a vu ce qui s'est passé en Irak, en Libye ou même en Syrie, qui ont accepté d'être désarmés. Toutes les infrastructures militaires ont été bombardées et détruites et il y a eu ensuite le chaos.
Et en Iran, plus de 50 000 personnes ont été arrêtées lors des manifestations de janvier contre le régime. Au moins 30 personnes risquent la peine de mort. Deux sont mineurs, alerte ce matin Amnesty International France. Les proches de Cécile Kohler et Jacques Paris attendent une décision de la justice française aujourd'hui concernant Mahdieh Esfahan Diary, une Iranienne accusée d'apologie du terrorisme qui constitue une possible monnaie d'échange avec Téhéran. La décision sera rendue en début d'après-midi. Cécile Kohler et Jacques Jack Paris sont sortis de prison mais ne peuvent toujours pas quitter l'Iran. La Russie dit ce matin avoir remis à l'Ukraine les dépouilles d'un millier de soldats ukrainiens et avoir reçu en retour les corps de 35 soldats russes. La guerre, elle, se poursuit et l'Ukraine affirme que Moscou a lancé la nuit dernière 420 drones et 39 missiles sur le pays, faisant des dizaines de blessés. Cette guerre, elle pèse sur l'économie des pays limitrophes de la Russie. Exemple en Finlande, où les villes qui avaient misé sur les échanges avec leurs voisins russes sont désormais au bord de la faillite. C'est le cas de Virolahti, petite commune de près de 3000 habitants. Le reportage d'Étienne Monin.
Il suffit de rouler quelques mètres en voiture pour voir que Virolahti est un dégât collatéral de la guerre. Topi Enanen est le maire. Il a été nommé pour redresser les finances. On regarde par la vitre. Dehors, il fait moins 15 degrés.
Il dit que là, si on regarde à droite à gauche, eh ben, on voit le nombre de bâtiments qu'on a fermés.
La municipalité est plombée par une dette de 30 millions d'euros. Elle a misé sur le tourisme russe. Ça l'a entraîné vers le fond, explique Tomi Kokola, le porte-parole de la municipalité.
C'est une très mauvaise situation pour la municipalité. On avait investi dans des appartements, on avait acheté des terrains, il y avait plein d'espoir de développement. Mais maintenant, c'est la chute.
Virolahti est à peine à 200 km de Saint-Pétersbourg. La commune a fortement investi dans les années 2000. Elle a payé pour le centre commercial, l'autoroute, des maisons. C'était l'âge d'or, dit Anulina Lintunen, en charge du tourisme.
C'était la grande époque. Les Russes sont connus pour dépenser beaucoup d'argent. Leur panier moyen était bien plus important que celui des Finlandais. C'était beau à voir et très dynamique.
Mais la frontière est maintenant fermée depuis un peu plus de 2 ans. La route des camions vers Saint-Pétersbourg est déserte. Le chômage est passé à 14%. Le niveau de vie s'en ressent dans les familles, dit Nina Lairo, professeure au lycée.
Chez certains élèves, je vois que la situation économique chez eux n'est pas bonne. Je le ressens.
Virolahti est donc passé à une forme d'économie de guerre. Le maire a réduit le nombre de conseillers municipaux. Il va fermer une école, une crèche, et le patrimoine est à vendre.
Nous avons vendu du bois et des terrains de nos forêts. Nous faisons tout pour nous séparer de nos biens immobiliers qui ne servent à rien, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs.
Aujourd'hui, le village se sent abandonné. Un peu moins de 3000 personnes vivent à Virolahti. Et globalement, c'est toute la Finlande qui subit l'onde de choc de l'invasion russe en Ukraine.
Reportage en Finlande d'Étienne Monin.
Rachida Dati assure ce matin qu'elle est la candidate à la mairie de Paris soutenue par Emmanuel Macron.
Elle a démissionné hier de son poste de ministre de la Culture pour se consacrer à sa campagne pour les municipales. Interrogée ce matin sur BFM TV, elle a balayé l'idée d'une alliance au second tour avec Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon soutenu par Renaissance. Alliance qu'il refuse lui aussi. Paris, où le mode de scrutin change pour ces élections, tout comme à Lyon et à Marseille, les électeurs parisiens, lyonnais et marseillais vont voter le même jour pour des conseillers d'arrondissement et pour des conseillers municipaux qui éliront eux directement le ou la future maire. Et pour en parler, nous sommes avec Bernard Dollet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Et à mes côtés, le chef du service politique de France Culture, Stéphane Robert. Bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour Bernard Dollet. Paris, Lyon et Marseille, ces trois villes pourraient changer de majorité le 22 mars prochain. L'issue du scrutin est assez incertaine. Cette incertitude est-elle liée au changement de scrutin institué par la loi Paris-Lyon-Marseille votée et promulguée l'année dernière ?
Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a des choses plus profondes. Il y a une trentaine d'années, Paris et Lyon étaient solidement ancrés à droite, Marseille à gauche, et puis Paris et Lyon ont basculé en 2001, sous l'effet notamment d'une transformation tout à la fois de leur sociologie et puis d'une transformation de la sociologie électorale. Aujourd'hui, on voit que partout dans le pays, on a une forme de poussée de la droite, et on enregistre aussi cette poussée de la droite dans les grandes villes, y compris à Paris, avec la candidature de Rachida Dati, on le voit dans les sondages à Lyon avec celle de Jean-Michel Aulas, et puis on voit pointer un duel au second tour entre le maire sortant et le Rassemblement national à Marseille. Mais c'est vrai que, en revanche, la nouvelle règle électorale change un tout petit peu le jeu, Et en tout cas, elle clarifie les enjeux du scrutin en contribuant à personnaliser ces trois élections et peut-être à les présidentialiser dans une certaine mesure.
Et qu'est-ce qu'elle change alors précisément cette loi PLM ? Parce qu'on a donc deux scrutins différents, hein.
Oui, alors on a deux scrutins différents dans la mesure où cette fois-ci l'élection des conseillers de secteur ou d'arrondissement sera déconnectée de l'élection des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux à Marseille et à Lyon. Ce que ça change fondamentalement, peut-être que le plus simple, c'est de partir de l'exemple américain, où on sait bien qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a une élection présidentielle, on peut gagner le vote populaire et perdre le vote des États. Ou inversement, on a tous en tête le précédent de l'élection de 2000 avec Bush et Gore, ou celui de 2016 quand Trump avait été élu pour une première fois alors que Hillary Clinton avait obtenu plus de voix que lui sur l'ensemble des 50 États des États-Unis. Eh bien, c'est exactement la même chose. Autrefois, par exemple, la droite parisienne, qui était surreprésentée dans le 16e arrondissement, n'y trouvait aucun avantage, puisque les conseillers de Paris était désigné à cette échelle. Faire 51 ou 75% dans le 16e ne changeait rien. Cette fois-ci, chaque voix va compter, en quelque sorte. Et donc, il ne sera plus possible, comme en 2001 pour Bertrand Delanoë, par exemple, d'être minoritaire en voix au second tour et de l'emporter quand même lors du troisième tour à l'élection du maire. C'était aussi un cas de figure qu'on avait enregistré en 83 à Marseille, où le découpage des secteurs marseillais avait permis à Gaston Defferre d'être réélu maire de Marseille, alors qu'il avait obtenu moins de voix que Jean-Claude Gaudin. Okay. Donc ce que ça change aussi, peut-être surtout, ça va être la façon de faire campagne des uns et des autres, et puis une exposition plus forte et plus grande des têtes de liste.
Il y a un autre changement, c'est la prime accordée à la liste qui arrivera en tête le soir du 22 mars. Elle est de seulement 25% contre 50% partout ailleurs. Ça aussi, c'est une différence.
Alors, c'est un changement, c'est une petite différence sur laquelle d'ailleurs on peut s'interroger. Et moi-même, je vous avoue que j'avais une petite interrogation sur la constitutionnalité de ce dispositif quand il avait été évalué par le Conseil constitutionnel l'année dernière, parce que c'est une différence entre Paris, Lyon et Marseille et les 36 000 autres communes françaises. En fait, cette prime, elle est calée sur la prime de 25% qui existe avec un mode de scrutin très proche, sinon identique, qui est le mode de scrutin pour les élections régionales. Aux élections régionales aussi, on a une prime qui n'est que de 25% pour la liste arrivée en tête. Mais 25%, une prime de 25%, c'est une prime qui permet néanmoins, en cas de triangulaire, à la liste qui arriverait en tête, même sans faire 50% des suffrages exprimés, d'être assuré d'avoir au moins la moitié des sièges au sein du Conseil de Paris ou au sein du Conseil municipal à Lyon et Marseille. Alors vous allez me dire, au moins la moitié des sièges, ça peut faire une majorité courte. C'est vrai, surtout quand les listes de second tour sont des listes d'alliances, des listes qui ont fusionné, mais c'est une majorité quand même.
Merci Bernard Dollet d'avoir été notre invité sur France Culture. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Et merci à vous Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Il est midi 43 et c'est une lourde perte pour Stellantis, la deuxième plus importante jamais enregistrée par un groupe français. Le constructeur automobile a annoncé ce matin une perte de 22 milliards 300 millions d'euros l'an passé. Son chiffre d'affaires annuel a baissé de 2%. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Mathilde.
Cette perte, elle s'explique, Hakim, par les mauvaises ventes des véhicules électriques.
Oui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, le marché de l'électrique peine à décoller. Sur le vieux continent, il n'a représenté l'année dernière en moyenne que 20% des ventes. Aux États-Unis, cela représentait que 8% des ventes. Or, avant son départ, l'ancien directeur général, Carlos Tavares, avait fait de l'électrique sa priorité en développant de nombreux modèles afin d'anticiper la fin des ventes de voitures thermiques en 2035, comme le souhaitait la Commission européenne, qui vient d'assouplir la règle il y a quelques semaines. Dans ce contexte, les salariés sont donc très inquiets pour leur avenir, indique Benoît Vernier, délégué central CFDT chez Stellantis.
ces mauvais résultats, ça veut dire pas d'intéressement, pas de participation, pas de prime de partage de la valeur, quelque chose qui était attendu en contrepartie des efforts fournis par les salariés et les difficiles conditions de travail dans les usines et en R&D. Et puis la deuxième inquiétude, elle est effectivement, quelles seront les conséquences de ces mauvais résultats et quelles orientations seront prises avec quel impact sur les bassins d'emploi. Et il faut que le plan stratégique apporte des garanties sur des volumes de production et des modèles futurs sur nos usines, et puis des orientations claires sur le travail de la R&D.
Alors pour redresser la barre, Stellantis a déjà commencé à changer de stratégie dans l'électrique en réduisant le nombre de modèles, ainsi qu'en annonçant son désengagement dans plusieurs projets de gigafactory de batteries, comme avec le coréen Samsung par exemple. Le constructeur a aussi annoncé qu'il allait relancer des modèles thermiques, particulièrement aux États-Unis, avec de gros pick-up, avec sa marque Jeep par exemple. Idem en Europe, où il va relancer le diesel, des choix qui, selon le groupe, ne sont pas du tout en conflit avec l'innovation et n'impacteront pas son engagement dans la décarbonation de l'industrie automobile. Mathilde, les ONG environnementales n'apprécieront sans doute pas cette stratégie.
Merci à Kim Kasmi.
L'association Innocence en danger lance un appel à témoins en France dans l'affaire Epstein.
Près d'un mois après la diffusion de 3 millions de documents par le ministère de la Justice américain, Innocence en danger veut recueillir la parole des éventuelles victimes françaises du financier et pédocriminel et de ses complices. L'association veut leur offrir un espace d'écoute sécurisé, ce qui lui a déjà permis de recueillir de premiers témoignages. C'est ce que vous nous révélez aujourd'hui, Aurélien Tirard.
En deux jours, 15 témoignages sont déjà parvenus à Innocence en danger. 15 femmes qui racontent pour la première fois, selon l'association, ce que Jeffrey Epstein et ses complices leur ont fait subir il y a des années sur le sol français lorsqu'elles étaient mineures. Toutes vivent depuis à l'étranger. Ces 15 femmes ont été rassurées par cet espace anonyme que leur propose l'association et leurs 5 avocats, dont Cathy Richard.
On sait que pour certains, il y a une peur de représailles, une peur de blesser des proches, d'avoir affaire à des gens qui sont des notables. Donc nous, on respecte ça. Nous sommes prêts à les entendre, à les écouter et à les aiguiller.
Les accompagner pour qu'elles puissent porter plainte si elles le souhaitent. Et à toutes celles qui se diraient que c'est trop tard, que cela ne sert à rien de témoigner, car ce qu'elles ont subi est prescrit, Cathy Richard a ce message.
On dit aux victimes, ne partez pas perdant, tout doit être d'abord étudié. Ne refoulez pas au fond de vous ce que vous avez vécu, ne vous censurez pas ni par peur des autres, ni par peur de la justice.
L'association ne compte pas que sur les témoignages de victimes de Jeffrey Epstein, mais aussi sur des informations de ceux qui auraient vu ou su des choses dont ils n'ont encore jamais parlé.
Le parquet de Paris a ouvert 2 enquêtes cadres pour analyser tous ces documents et on a appris il y a quelques minutes la démission du patron du Forum économique mondial de Davos après des révélations sur ses contacts avec Jeffrey Epstein. L'Union européenne instaure à partir d'aujourd'hui des contrôles renforcés sur l'huile importée de Chine à l'origine du récent scandale sanitaire des laits infantiles. Une huile riche en acide arachidonique susceptible de présenter un risque sérieux pour la santé humaine. Selon l'UE, Bruxelles compte désormais prendre des mesures drastiques pour s'assurer que les volumes importés de Chine sont sains. Fabien Cazot.
L'huile incriminée fera désormais l'objet de vérifications administratives automatiques dès lors qu'elle franchit les frontières du marché européen. D'abord sur son origine, les douanes exigeront des importateurs de fournir des documents qui attestent du lieu et des méthodes de fabrication, ainsi que des certificats sanitaires signés par les autorités chinoises devant valider des analyses de laboratoire qui démontrent l'absence de céréulide, cette toxine qui a provoqué le rappel de 20 millions de boîte de lait infantile ces dernières semaines en Europe. L'eurodéputé belge Yvan Verhoogstraet a été un des premiers à alerter la Commission européenne début février sur le sujet.
Garantir la sécurité de ces produits et la santé des bébés est essentiel. C'est une priorité absolue avec laquelle on ne peut transiger. Oui, il faut du commerce international, mais non, pas au prix de notre santé ou de celle de nos enfants. Si les règles ne sont pas respectées, nous devons être sans pitié. Et c'est ce que les citoyens européens attendent de nous.
La moitié des lots d'huile importée feront également l'objet d'analyses biologiques de manière aléatoire à leur arrivée sur le sol européen.
Fabien Cazot, correspondant de Radio France à Bruxelles. Une proposition de loi est examinée aujourd'hui au Sénat pour restreindre encore plus la vente de protoxyde d'azote. Cette substance utilisée en médecine ou en cuisine est inhalée pour ses effets psychoactifs, en particulier par les jeunes. Sa vente est déjà interdite aux mineurs depuis 2021. Le texte vise à limiter cette fois uniquement cette vente aux professionnels
professionnels qui en ont besoin. Les récompenses du cinéma français ce soir, c'est la 51e cérémonie des Césars, animée par le comédien Benjamin Laverne, pensionnaire de la Comédie française, qui succédera à Emilia Pérez, consacrée l'an dernier, réponse à partir de 20h30. Un temps sec et ensoleillé dans votre ciel cet après-midi, sauf en Normandie et en Bretagne, où la grisaille va persister toute la journée. Les températures sont toujours douces pour la saison, de 12 à 20 degrés. 4 départements restent en vigilance orange pour risque de crue. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Nina Malraie. À 18h, vous retrouvez Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.